Dans quelques minutes, ce sera le point de presse de François Legault, premier ministre du Québec. Vous savez que il ne le fait plus systématiquement. Hier, il n'y a pas eu de point de presse du tout. Aujourd'hui, il y en aura un. On sait déjà que le bilan de la journée, qu'est-ce qu'il est, parce que c'est pas lui qui va le faire. C'est fini, ça aussi. Hein. C'est plus François Legault qui annonce le bilan du jour. Aujourd'hui, il y a eu 89 nouveaux décès. On est rendu à 4228. Il y a eu 541 nouveaux cas. On est rendu à 49139 cas. Il y a maintenant 1378 personnes hospitalisées. C'est une baisse de 25. Et aux soins intensifs, on en retrouve 184. Une hausse de 3. Donc, c'est grosso modo le bilan du jour. Aujourd'hui, il devrait parler des campings et des chalets parce qu'il y aura une conférence de presse un peu plus tard cet après-midi de Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, qui va donner plus de détails. Donc, on va aller écouter ce qu'il a à dire, mais il va quand même annoncer là, normalement que les campings devraient réouvrir à compter du 1er juin, c'est-à-dire lundi prochain. Il est accompagné, comme toujours, c'est le même trio, la Sainte Trinité, le docteur Horacio Arruda, directeur de la Santé publique du Québec, la ministre de la Santé, Danielle McCann, et le premier ministre. Les trois arrivent au moment où je vous parle à la salle de conférence de presse de l'Assemblée nationale. Comme c'est le cas depuis quelques jours, ils arrivent tous les trois masqués. J'imagine qu'on va connaître le nom de la personne qui a fourni le masque cette semaine aujourd'hui pour faire une plug au masque. Mais on n'aura pas de bilan, donc ça risque d'être un point de presse un peu différent de ceux auxquels on est habitué normalement. On va les rejoindre. Ils sont maintenant en direct de l'Assemblée nationale. Voici François Legault.
Santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par une entreprise de Québec qui s'appelle Sur Mesure et qui a fait une cravate aussi aux couleurs de l'arc-en-ciel, de l'espoir. Là, ça va bien aller. Donc, encourageons nos artisans québécois qui fabriquent des masques et puis portons le masque. Pour faire un peu différent, on a commencé depuis ce matin à publier les chiffres sur le bilan. Donc, je vous répéterai pas tous les chiffres que vous avez déjà. Je vais passer plutôt à certains commentaires sur la situation en général. Bon, évidemment, la situation reste difficile dans les CHSLD. Il continue d'y avoir beaucoup de décès. Le nombre de personnes qui est infecté diminue, mais la situation reste difficile du côté du personnel. Je veux vous rappeler un petit peu la séquence dans les CHSLD. Depuis plusieurs années, il manquait à peu près 10 000 employés dans les CHSLD pour avoir ce que j'appellerais des ratios raisonnables. Donc, quand on est arrivé au gouvernement, il y a un an et demi, on a augmenté le budget. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à combler les postes. Donc, on a affiché les postes, mais on les a pas comblés. Notre objectif, c'était éventuellement, durant la négociation de la convention collective qui commence, là, qui a commencé dans le fond, même si c'est pas signé, le 1er avril 2020, de rehausser de façon importante le salaire, entre autres, des préposés aux bénéficiaires pour être capable justement de combler ces 10 000 postes. Et puis, bon, je l'ai déjà dit, je le répète, s'il y a une erreur qu'on a faite durant cette année et demie, c'est qu'on aurait dû, en même temps qu'on a augmenté les budgets des CHSLD, aurait fallu aussi augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires pour que les budgets soient dépensés. Parce qu'on s'est retrouvé dans une drôle de situation où il y a des centaines de millions de dollars qui avaient été prévus au budget qui n'ont jamais été dépensés parce qu'on n'arrivait pas à recruter les préposés aux bénéficiaires en particulier. Bon, est arrivée la crise et à cause de la crise, s'est ajouté un autre 10 000 employés qui sont absentés, soit qui avaient la COVID-19 ou dans certains cas, ils avaient peur d'attraper la COVID-19, commence un petit peu à revenir. Là, on est rendu à 9700 qui sont absents actuellement. Mais il reste que quand même, là, il manquait 10 000 employés avant. On essayait de combler les postes, là, surtout avec des temps partiels, ce qui explique pourquoi on a la moitié des employés qui sont à temps partiel. Puis là, pour remplacer les 10 000 personnes absentes, Ben, on a utilisé deux moyens. D'abord, je contribue. Donc, des gens qui n'avaient pas nécessairement de formation, mais qui ont accepté de venir travailler dans nos CHSLD. Puis, les soldats de l'armée. D'ailleurs, j'ai parlé ce matin avec Justin Trudeau. J'ai demandé que les 1000 soldats restent jusqu'au 15 septembre, le temps, je vais vous en parler tantôt, de former des employés pour combler les postes qui sont manquants. Donc, le deuxième, si je peux appeler ça comme ça, 10 000 employés qui nous manquent, a été comblé temporairement par des gens pas formés. Et là, on espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ces 10 000 employés-là vont revenir au travail. Mais il nous reste le premier 10 000, le 10 000 qui manque depuis plusieurs années dans les CHSLD. Là, le problème reste entier. Donc, on va, dans les prochains jours, lancer une grosse campagne pour convaincre 10 000 personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, ça va se donner dans plusieurs dizaines de centres de formation professionnelle, en partie aussi sur le terrain. Donc, ce qu'on vise, là, c'est de recruter 10 000 personnes qui accepteraient de venir suivre une formation qui va durer 3 mois. Donc, ça veut dire de la mi-juin à la mi-septembre. Les personnes qui vont s'engager vont être payées pendant la formation, donc vont être payées comme des aides
de
service. Ça, c'est un salaire de 21 $ de l'heure, 760 $ par semaine. Et s'ils réussissent leur cours, après 3 mois, bien là, ils vont gagner le nouveau salaire qu'on donne soit via les primes temporaires ou qu'on offre dans les conventions collectives, qui commence à 26 $ de l'heure, donc 940 $ par semaine, 49 000 $ par année. Donc, je pense que c'est une offre qui est intéressante. C'est une offre aussi, bien sûr, puis avec raison, beaucoup de gens disent que c'est pas juste une question de salaire, de chiffres, d'argent. C'est quand même un travail valorisant, venir s'occuper des personnes vulnérables dans nos CHSLD. Il faut comprendre aussi qu'on va mettre en place un nouveau contexte. D'abord, en ajoutant 10 000 personnes qui n'étaient pas là, ça veut dire qu'on va avoir plus de monde pour faire le travail. Donc, ça va être plus agréable avec les 10 000 personnes additionnelles. Deuxièmement, on veut aussi regarder, puis on en a déjà parlé, pour rénover les CHSLD, pour construire des maisons des aînés qui soient plus belles, plus grandes. Et je le disais déjà à quelques reprises à ceux qui me posaient la question, on n'exclut pas, si 10 000 employés de plus, c'est pas suffisant, d'augmenter encore davantage les ratios. On l'exclut pas, mais on va convenir là qu'on a tout un défi devant nous autres de trouver 10 000 personnes qui acceptent de venir travailler à temps plein. Donc, 10 000 personnes de plus dans nos CHSLD. Donc, on va s'attaquer à ça avant d'inclure quoi que ce soit dans les conventions collectives. Là, il faut quand même être capable de livrer la marchandise. Mais je veux être très clair là, que j'exclus pas d'aller à plus que 10 000 si c'est nécessaire. Mais on veut offrir à tous les employés à l'avenir dans les CHSLD des conditions de travail agréables, d'avoir du temps pour parler avec les résidents, peut-être aussi changer le nom, hein, préposé aux bénéficiaires, on n'aime pas ça, bénéficiaires là, qui s'occupent des vraies personnes, des vrais résidents, avoir le temps, parce que c'est aussi important, ce travail-là de contact avec les résidents, que la partie qui est plus médicale. Donc, tout le monde, là, préparez-vous. Dans les prochains jours, on va vous donner les adresses là, des 40, 50 centres de formation professionnelle qui vont accepter des applications. Ça va commencer donc autour de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Donc, mais quand même, une belle expérience. Bon, vous l'avez vu, on a eu un rapport de l'armée. Bon, pas beaucoup de surprises. Évidemment, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas difficile, mais je retiens surtout deux choses du rapport et des rapports, là, parce qu'ils ont fait un petit rapport sur chaque CHSLD où ils ont été impliqués. Deux choses. Bon, évidemment, le fait qu'il nous manque 10 000 personnes, ça fait qu'on a beaucoup de monde qui sont à temps partiel, ça fait que c'est très difficile de s'assurer que ça soit pas les mêmes employés qui soient dans les zones chaudes et dans les zones froides à l'intérieur d'un même CHSLD. C'est ce qu'on vise, puis je pense qu'on a réussi justement avec les gens de Je contribue puis les soldats qui sont arrivés à ce que ça soit très limité. Mais il reste que ce problème-là, on le connaît et puis vous le connaissez. Donc, c'est important d'ajouter du personnel, puis quand il y a une zone chaude, bien que ça soit du personnel spécifique qui aille dans la zone chaude. L'autre problème qui a été relevé, puis ça aussi, on s'y attendait, c'est l'utilisation du matériel de protection individuelle. Donc, comment et quand on porte un masque, une blouse, des gants, quand est-ce qu'on change d'équipement quand on passe d'un résident à l'autre. Même les militaires ont dû s'adapter, puis malheureusement, certains ont été infectés. Mais c'est sûr qu'en ayant 10 000 personnes qui ont pas eu de formation, qui sont pas qualifiés, pour la plupart, il y en avait quelques-uns qui c'était des gens à la retraite qui sont revenus, ben c'est plus difficile d'appliquer les directives sur quand et comment porter le matériel de protection individuelle. Donc je dirais, ce sont les deux remarques là qui reviennent. On n'a pas eu des remarques comme dans le rapport d'hier en Ontario. Bon, et un autre sujet que je veux parler, c'est les comparaisons avec les autres endroits dans le monde sur le nombre de décès au Québec. D'abord, je pense qu'il faut être très prudent. On l'a vu, puis le docteur Arruda a fait la démonstration. Au Québec, toutes les personnes qui sont décédées de la COVID-19 ont été déclarées, parce que quand on regarde le surplus de décès par rapport à la même période l'année passée, on voit que c'est à peu près le même chiffre. Donc, ça veut dire que chez nous, ça a été déclaré complètement. Bon, vous avez vu des articles un peu partout dans le monde où on dit à certains endroits, ben il y a la moitié des décès qui n'ont pas été déclarés. Et quand on va avoir tous les chiffres sur les comparaisons des décès en 2020 par rapport à 2019-2018, on va être capable, à ce moment-là, de faire des comparaisons. Donc, ça, c'est la première chose où il faut être prudent. La deuxième chose où il faut être prudent, c'est que le virus a frappé beaucoup plus dans les grandes villes du nord-est de l'Amérique du Nord et dans les grandes villes en Europe. Puis, quand on regarde les grandes villes du nord-est nord-américain et la plupart des grandes villes en Europe, on a un nombre de décès par million d'habitants qui est comparable au Québec, même dans certains cas, pire qu'au Québec. Donc, je parle entre autres de villes comme New York, Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Washington, D.C., Londres, Paris, Madrid. Si vous allez voir les chiffres dans ces villes-là, c'est tout comparable ou pire à ce qu'on a vécu à Montréal. Il y a une exception. Une exception, c'est Toronto. Toronto a beaucoup moins de décès par million d'habitants de déclarés. D'ailleurs, j'ai lancé un défi au docteur Arruda, puis j'en lance un aussi à l'INSPQ, m'expliquer comment se fait-il que Toronto est dans une situation, parce que c'est une grande ville, évidemment, Toronto, complètement différente des autres grandes villes dans l'Amérique du Nord, là, dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, je vous lance ce défi-là. Pourquoi? Là? Donc, on va se fier aux spécialistes, aux gens qui connaissent ça. Je termine avec mes remerciements du jour. C'est les personnes de Je contribue puis les militaires. Je veux leur dire merci. Une chance qu'on vous a. J'en profite pour passer mon petit message. J'aimerais que les militaires restent jusqu'à la mi-septembre. Je sais, je n'ai parlé avec M. Trudeau, c'est pas facile. Ils ont d'autres missions. Mais je peux vous dire que tous les commentaires qu'on a eus sur les militaires, lorsqu'il y a eu une collaboration exceptionnelle entre le personnel de la santé puis les militaires dans les CHSLD. Donc, on aimerait bien ça les garder jusqu'à la mi-septembre, le temps que les personnes qu'on va former cet été soient disponibles pour les remplacer. Bon, dernière chose aussi que je vous dis, je sais que beaucoup de gens ont hâte qu'on aille plus vite dans le déconfinement. Je pense, entre autres, à tous les rassemblements, donc que ce soit les réunions familiales ou entre amis à l'intérieur. Là, on a permis de le faire à l'extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir à 5, à 10 entre amis. Je sais aussi que dans le monde artistique, il y a des gens qui ont hâte qu'on annonce une date pour les spectacles, quitte à ce qu'il y ait un tiers ou un demi des spectateurs. Je vous dis tout de suite, ça sera pas demain matin. Puis, la condition pour passer à cette prochaine étape, c'est vraiment qu'on contrôle la propagation du virus. Donc, qu'on réussisse ce qu'on a annoncé. Donc, les rassemblements extérieurs de 10 personnes maximum, la réouverture des commerces depuis lundi à Montréal, faut pas que ça amène plus de cas dans les hôpitaux. Donc, il faut réussir cette étape-là pour espérer ensuite retourner à des rassemblements intérieurs. Bien sûr, avec des consignes, ça ne reviendra pas complètement comme avant, mais c'est important de respecter les consignes si on veut revenir à une vie un peu plus normale. Donc, je compte sur tous les Québécois là, pour réussir l'étape des commerces puis des rassemblements extérieurs pour qu'on puisse ensuite se parler de rassemblement intérieur. Good afternoon. Our biggest challenge remains the staffing situation in our health network, especially in senior zone. We still need more people. In the coming days, we'll launch a campaign to recruit 10,000 people to receive orderly training. I ask every Quebecer that can to consider it very seriously. You'll be paid $21 per hour to follow the training of 3 months. And once you're trained, you'll get a full-time job at $26 per hour. That's $49,000 a year, including plus the pension fund and all the fringe benefit associated with the government. And we're talking, and that's important, about a rewarding job that makes a real difference in people's life. So I ask you to consider it seriously. We need you. I want to remind you also that all that will be possible, that the return to more normal life will be possible if we follow the public health instructions. So we must keep our distances and wear a mask. I'm counting on you all. Thank you.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Marco Belair, Cyrino Le Devoir.
Oui, bonjour à vous tous. Monsieur le Premier ministre, comment décrivez-vous l'utilité du rapport des Forces armées canadiennes pour votre gouvernement, mais également pour le gouvernement fédéral à qui, j'imagine, il était d'abord destiné? Puis, est-ce que les Forces armées canadiennes ont outrepassé leur mandat en amassant des informations et en faisant rapport au gouvernement fédéral?
Bien, je pense que c'est dans l'habitude de l'armée canadienne, quand ils ont un mandat, que ce soit pour des inondations ou quoi que ce soit, qu'il y ait un rapport à la fin. Bon, on n'est pas à la fin, là, mais en tout cas, moi, je l'espère qu'on n'est pas à la fin, puis c'est ce que j'ai bien dit à quelques reprises, j'ai au moins 3-4 fois ce matin à Justin Trudeau. On aurait pu apprendre des choses. Ce que j'ai vu hier, c'est que Doug Ford a appris des choses avec ces rapports-là. Bon, nous, ce qu'on apprend, c'est qu'il manque de personnel, que parce que le personnel n'est pas formé, ils ont de la difficulté avec l'équipement individuel. Donc, moi, j'ai pas vraiment appris quelque chose dans ces rapports-là. Mais c'est une façon de faire là, de l'armée canadienne.
Le coup de main des Forces armées canadiennes est fortement apprécié par votre gouvernement, puisque vous leur demandez de rester jusqu'au 15 septembre prochain. Est-ce que Justin Trudeau vous a dit non? Puis aussi, vous parlez beaucoup de fierté depuis votre élection. C'est pas un peu gênant de devoir compter sur l'armée canadienne pour maintenir à flot le réseau de CHSLD québécois?
Ben écoutez, moi je pense que c'est un jugement qu'on porte sur plusieurs années où on a négligé les CHSLD. De dire qu'on est rentré dans cette crise-là, puis depuis 5 ans, 10 ans, il nous manque 10 000 employés dans les CHSLD, ça c'est gênant. Évidemment, c'est pas facile de trouver 10 000 personnes disciplinées qui acceptent sur le champ de venir travailler dans un contexte pas facile. Donc, c'est pour ça que je suis content que sur les 10 000, là, il y en ait 1 000, que ce soit des militaires. Donc, moi, je pense que c'est gênant pour toute la société québécoise qu'on en soit rendu là, d'avoir besoin de 10 000 personnes. On aurait dû le faire bien avant, comme je l'ai dit, puis je le répète. Nous, on a fait une première étape en augmentant les budgets des CHSLD, mais il aurait fallu augmenter plus rapidement les salaires pour combler ces 10 000 postes-là, puis ne pas avoir besoin des militaires.
Si on poursuit avec Hugo Lavallée, Radio-Canada.
Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je veux revenir justement à cet aspect du rapport concernant le port de l'équipement de sécurité. Vous mentionnez qu'il y a une absence de formation de nouveaux employés, mais quand même, le rapport est un peu plus sévère que ça. On parle de mauvaise discipline d'employés ne respectant pas les protocoles mis en place. On évoque un manque d'assiduité, problème de leadership des gestionnaires, problème de priorisation. Donc, est-ce que c'est normal que des employés sachent pas utiliser de l'équipement de protection puis que l'armée doive se substituer aux gestionnaires pour établir l'organisation des soins, de la formation? Ça semble quand même indiquer un problème de leadership important.
Bien, écoutez, il faut tenir compte du contexte. 10 000 nouveaux employés qu'on a recrutés, puis ça inclut même les militaires, là, des gens qui n'avaient pas la formation, qui n'avaient pas l'expérience. Donc, c'est plus difficile d'appliquer des directives quand on a autant d'employés qui sont nouveaux puis sans formation. Puis malheureusement, bien, il y a eu des employés puis des soldats aussi qui ont été infectés.
Monsieur le Premier ministre, oui. En complément, faut se dire là que même pour les employés qui étaient déjà là, qui ont des connaissances là au niveau de la prévention des infections, mais avec la COVID-19, les CHSLD sont des milieux de vie, mais faut le dire, ils sont devenus des milieux de soins. Alors ça a tout changé. Et ça a été très exigeant. Et les équipements de protection, ça demande, oui, une formation, mais aussi une formation continue. Ça demande même qu'on soit deux quand on les met, puis qu'on les enlève. Alors, c'est pour ça, encore une fois, comment c'est important d'avoir davantage de personnel. Et on a tout un programme qu'on a mis en branle, parce que depuis le début de la pandémie, il y a même la Croix-Rouge qui nous a aidés au niveau de la prévention des infections. On met en branle tout un programme, là, depuis quelques semaines, là, qui va faire le tour de tous les CHSLD. Le rapport est instructif, là, sur 10 CHSLD. Mais tous les CHSLD, on a déjà débuté une formation costaude sur la prévention des infections. Et ça va être en continu. Et on va avoir davantage de gens aussi qui s'occupent de la prévention des infections dans les établissements. Ça, c'est fondamental pour maintenant et la suite des choses.
Oui, on a entendu le premier ministre Justin Trudeau un peu plus tôt cette semaine évoquer l'idée qu'on offre aux employés 10 jours de congés maladie payés pour que les gens se sentent pas obligés d'aller travailler s'ils ont des symptômes. Monsieur Trudeau aussi ce matin était questionné sur une éventuelle implication du gouvernement fédéral dans les soins à apporter aux personnes âgées. Il n'y a pas fermé de porte. Quel rôle est-ce que vous voyez le gouvernement fédéral jouer à plus long terme, là, au-delà de la présence temporaire de l'armée, dans les soins aux personnes âgées? Si tant est que vous voyez un rôle pour le gouvernement fédéral.
Bien, j'ai dit à Justin Trudeau ce matin, d'abord, concernant les congés de maladie, qu'il y a une réaction très négative du côté des entreprises. Bon, évidemment, il y a une question là où c'est pas clair qui va payer, mais il y a aussi une question d'organisation du travail dans un contexte où déjà les entreprises sont dans une situation difficile. Je comprends l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer qu'un employé qui a des symptômes ne se sentent pas obligés d'aller au travail pour gagner sa paye. Donc, je comprends l'objectif, mais on va sûrement en débattre. C'est ce que M. Trudeau me dit demain soir, jeudi soir, donc à notre rencontre. Pour ce qui est du financement des soins de longue durée, je l'ai dit à plusieurs reprises à M. Trudeau, moi, ce que je lui suggère, c'est d'augmenter les transferts fédéraux en santé. Je le rappelle, quand on a commencé, c'était 50 % du financement des coûts de la santé qui venait du fédéral. On est rendu à 23 % seulement des coûts de la santé qui viennent du fédéral. Donc, c'est un fardeau très lourd sur les budgets des provinces parce que les budgets en santé ont augmenté plus rapidement que l'inflation, à peu près dans toutes les provinces depuis les 10 dernières années. Donc, c'est malheureux, là. Puis en plus, on veut couper de 5 à 3 % la croissance, alors que avec le vieillissement, avec les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies, il y a une augmentation pour garder les mêmes services là d'au moins 5 %. Donc, on fait des pressions importantes, tous les premiers ministres de toutes les provinces, pour que si vraiment le gouvernement fédéral puis M. Trudeau veulent aider au financement des soins de longue durée, mais qui augmentent les transferts fédéraux en santé aux provinces.
Pour Olivier Bossé, Le Soleil.
Vous dites le plan de formation de 3 mois, vous cherchez 10 000 personnes, c'est fantastique, mais ça a tout prix pour en trouver 10 000. Ça ne pourra pas être ces 10 000-là parce que ces 10 000-là vont déjà être au travail. Où est-ce que vous allez pêcher ces personnes-là?
Ça pourrait en partie être... en tout cas, il y a une partie qui pourrait être dans les 10 000. Nous, on est inquiets un peu là que ces gens-là quittent trop vite parce qu'il y en a qui avaient un autre emploi. Bon, il y en a qui ont perdu leur autre emploi. Mais ça va faire partie des personnes à qui on va offrir de dire, on va vous payer pendant votre formation pendant 3 mois. Il y a une partie, là, on est en train, avec Jean-François Roberge, de regarder quel pourcentage va être fait dans les centres de formation professionnelle puis quelle partie va être faite dans les CHSLD. Donc, ça pourrait en partie être ces personnes-là. Mais effectivement, c'est un énorme défi. Là, j'ai demandé à mes gens de mettre en place une grosse campagne de promotion. Je pense que de dire aussi, on vous donne 760 $ par semaine pendant les 3 mois de la formation, puis ensuite 940 $ par semaine pour commencer. Ça, c'est le bas de l'échelle, donc 49 000 par année. Je pense que c'est une bonne proposition. Maintenant, notre défi aussi, c'est d'améliorer l'image des CHSLD, de dire, avec les 10 000 personnes de plus, ben le travail va être plus agréable. Puis on reconnaît là, qu'il y a des CHSLD qui sont vétustes, qui doivent être embellis, remplacés par des maisons des aînés dans certains cas, rénovés de façon importante dans d'autres cas. Donc, c'est ça le défi qu'on a, là, effectivement, de recruter dans un contexte qui n'est pas facile.
C'était la conférence de presse, pas quotidienne, mais quasi quotidienne du premier ministre du Québec, François Legault. Grosso modo, aujourd'hui, entre autres, il demande à ce que les 1000 militaires restent en CHSLD québécois jusqu'au 15 septembre. Il en aurait fait la demande officiellement au premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Il revient aussi sur les chiffres pour expliquer que finalement Montréal est peut-être pas si pire que ça par rapport aux autres villes. Puis là, il dit que c'est Toronto qui est vraiment bas par rapport au nord-est américain. Et finalement, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup question de climatisation dans les CHSLD. Puis tantôt, j'en ai parlé un peu dans l'extrait avant la conférence de presse. Puis il y a un auditeur qui m'a écrit, ça me fait beaucoup réfléchir, puis je veux vous lire son courriel. Il me dit, « Monsieur Duhaime, j'écoutais votre émission ce midi et sachez que nous avons le climatiseur de ma mère qui vit en CHSLD. Nous attendons les directives de la santé publique pour pouvoir enfin aller l'installer. Tout comme ses vêtements d'été. Nous ne pouvons rien apporter parce qu'ils ont peur de nous faire entrer. » Évidemment, il dit, « Je suis tanné des directives qui n'aboutissent pas. » Donc, il y a des gens présentement, tantôt j'ai dit, il y a des enfants qui seraient capables de le payer, le climatiseur, surtout que les parents viennent de recevoir 300-500 $ supplémentaires chacun. Payer un ventilateur, là, ça coûte 25-35 $. C'est pas la fin du monde, là. Puis j'avais oublié ce fait-là, mais il y a des gens qui sont prêts à le faire, qui veulent aller l'installer et qui présentement sont systématiquement bloqués. Je trouve ça assez particulier. je comprends là, qu'ils ont peur de faire entrer du monde, puis le coronavirus, c'est dangereux, mais il y a moyen de prendre des mesures pour s'assurer que tu propages pas le virus à la grandeur du CHSLD si tu rentres une fan ou un air climatisé. Avant de la pause, on a une nouvelle de dernière heure, et c'est Jonathan Bernard qui vient nous l'annoncer. Il y a un feu, c'est tout ça?
Oui, effectivement, incendie d'une résidence du côté de Lac-Beauport. Des auditeurs nous mentionnent que ce serait autour du 50 chemin de la traverse. Donc, est-ce que c'est cette résidence-là ou une résidence voisine? Je suis pas en mesure de vous dire exactement. Les pompiers ont été dépêchés sur les lieux aux alentours de 12h30. Donc, le premier signalement au 911 s'est fait vers 7h. Sur place actuellement, il y a pompiers de Lac-Beauport, mais il y a également des renforts de Stoneham et de Sainte-Brigitte qui ont été demandés sur les lieux. Des policiers de la Sûreté du Québec sont également présents parce que la circulation sur la traverse de Laval se fait en alternance. Pour ceux et celles qui veulent situer un peu à quel endroit ça se produit, c'est un peu avant le chemin de la Savane. Quand on part de Lac-Beauport pour se rendre à Sainte-Brigitte de Laval, c'est un peu avant le chemin de la Savane. C'est un secteur qui est boisé, ce qui peut compliquer la situation pour les pompiers actuellement qui sont en intervention. Première des choses, la chaleur, vous l'aurez compris, mais également le fait qu'il n'y ait pas de bornes-fontaines dans ce secteur-là. Il y a des lacs, donc peut-être qu'on va aller puiser de l'eau à même les lacs avec les autopompes. Mais pour l'instant aussi, il faut comprendre que c'est un secteur qui est très boisé, donc on ne voudrait pas que ça se propage dans la forêt parce que vous aurez compris qu'actuellement, la situation est extrême au niveau des feux de forêt, parce que c'est très, très sec encore.
Merci beaucoup, Jonathan. Avant la pause, je voulais quelques textos qui rentrent au moment où je vous parle, parce qu'il y a des témoignages importants et intéressants. Il y a un militaire, entre autres, qui aide justement dans les CHSLD, qui m'écrit, qui me dit qu'ils sont confinés dans des hôtels, qu'ils n'ont pas le droit de voir leur famille. Il dit, nous autres, on est là pour aider, mais on vit ça pour que plein de monde, pendant ce temps-là, profite de la PCU, parce qu'il dit qu'il y a bien du monde qui pourrait aller travailler là-dedans, mais que personne ne veut aller travailler présentement, parce qu'il y a mieux recevoir leurs 2 000$ par la poste à rien faire. Il y a quelqu'un qui me dit que son grand-père, Domar, est dans une résidence pour personnes âgées privées. Il y a une air climatisée portative à installer. Lui, son grand-père est autonome, là, mais il dit, étant donné que personne n'a encore le droit de rentrer dans la résidence, la seule option, c'est de faire installer par l'équipe de maintenance de la résidence. Il y a des frais de 50$ par air climatisé pour l'installation seulement, et le résident doit fournir tous les équipements nécessaires à l'installation. Je trouve ça dommage pour nos aînés de se voir pomper encore de l'argent comme ça, ou encore d'avoir excessivement chaud aujourd'hui puis demain. Donc, c'est des situations très difficiles, là. On oublie que c'est pas juste une question de faire d'installer des aires climatisées. C'est aussi, des fois, elles sont là. Mais c'est juste qu'avec les nouvelles directives, tout, comme la vie de tout le monde, tout est rendu compliqué. Il y a des fils pour toutes, on attend pour toutes, il y a des nouvelles mesures pour toutes, puis veut pas, mais ça met des bâtons dans les roues. Pendant ce temps-là, malheureusement, il y a des aînés qui souffrent. On prend une courte pause, restez là, on revient dans 2 minutes.